Le ruban tricolore. Ils vont être accueillis par M. Boutin, maire des salles de Castillon. Et les personnalités.
On vous entend.
Enfant de notre camarade Édouard Étourneau, mort en déportation, vont dévoiler la plaque. Qui va prononcer une allocution dans quelques instants. Nous demandons à monsieur le chef de musique de bien vouloir nous faire jouer le chant des partisans.
Thank you.
chrétien déporté va vous dire en quoi consiste le dépôt de cendres dans l'urne qui est ici.
Au pied de cette stèle, dans ce haut lieu de notre réseau, nous allons déposer des urnes contenant de la terre recueillie en des endroits sacrés, sur les lieux mêmes des camps de concentration, où les SS faisaient déverser les cendres des corps des déportés incinérés dans les fours crématoires. Les déportés des camps de Auschwitz, Altwiller, Mauthausen, le Struthof et les fusillés du Mont Valérien seront désormais présents dans notre mémorial grâce à la fraternité des associations d'anciens déportés et du secrétariat d'État aux anciens combattants. Deux de nos camarades vont maintenant placer les urnes dans la cavité qui sera ensuite scellée. Madame Fernande Gaudin, arrêtée en juin 42, à un jour d'intervalle avec son mari, déportée à Ravensbrück, officier de la Légion d'honneur, et Pierre Beausoleil, dit Pierrot, enfant de ce pays, arrêté fin 1943, déporté à Auschwitz, officier de la Légion d'honneur. Inclinons-nous devant ce symbole du souvenir que nous tous ici présents, ainsi que ceux qui nous suivront, garderons des héros qui ont lutté jusqu'au martyr pour que vive leur patrie, et dont de nombreux tiennent une place d'honneur dans le réseau CND Quartier.
Sur l'urne sacrée où reposent les cendres de nos camarades et l'artisan de ce monument.
Oui. Faire personner aux morts.
Mesdames, Messieurs, mes chers camarades et amis, c'est avec joie et émotion que je prends la parole pour vous adresser à tous un chaleureux merci. À des titres divers, vous avez apporté, vous apportez maintenant votre contribution au succès de cette inauguration. L'inauguration du mémorial du réseau CND Castille dans un site et un décor nouveau, digne de ceux qu'il veut honorer. Vous êtes nombreux et fervents. Vous avez apporté le concours financier nécessaire. Vous avez accordé d'importantes subventions en argent pour vos travaux. Je vous remercie tous. Enfin, je veux non seulement remercier, mais mieux encore, honorer ceux qui furent les artisans dévoués, inlassables, de cette inauguration, nos excellents camarades de la Barre de Nuit et Kiestrenek, et toute l'équipe des camarades de bord.
Pour comprendre le monde, il faut l'interroger.
Première interrogation. Pourquoi ce monument? Il est bon d'explorer le passé pour satisfaire notre curiosité personnelle. Mais il est nécessaire de le connaître pour mieux vivre notre présent, concevoir, préparer notre avenir. Un peuple sans mémoire est un peuple en avenir. L'être humain dispose de sa mémoire, instrument toujours fragile et souvent infidèle. Il dispose de l'histoire, œuvre contradictoire de toutes les mémoires et des monuments qui, eux aussi, racontent l'histoire, qui sont toujours un fait de civilisation. Car le monument est construit pour transmettre à la postérité la mémoire d'un événement considérable, et en l'occurrence exceptionnel. Témoin du passé, il demeure, il avertit pour mieux vivre le présent et préparer l'avenir. Il défie le temps qui passe, dépasse, répasse et repasse, et finalement épargne. Le temps auquel nous autres mortels demeurons inexorablement soumis. La résistance mérite que les Français d'aujourd'hui et de demain se souviennent. Les premiers résistants, ceux de notre réseau, étaient les patriotes, des antifascistes, des défenseurs des droits de l'homme. Ils étaient des purs, des pauvres qui cherchaient une justification à vivre dans une période abominable, détestable, révoltante de lâcheté, d'abandon, d'oppression. Ils ont combattu pour être en paix avec eux-mêmes. Je dirais plus, en joie avec eux-mêmes. Oui, en paix. Oui, en joie avec eux-mêmes, malgré les déboires, les angoisses, les souffrances, les menaces de mort dans la vie clandestine. Puis pour beaucoup, l'arrestation, la prison, la torture, la mort lente dans les camps de déportation, ou la mort brutale sous la hache ou par la fusillade. Deuxième question, pourquoi ce monument ici? À Salles et Castillon. Parce que c'est ici, dans cette région, que s'est constitué le premier noyau de résistants qui devait former l'avant-garde du réseau CND Castille. Pour mieux répondre à la question, je préfère céder la parole à celui qui fut le créateur et le chef de notre réseau, Gilbert Renaud d'Irrémy. Personnage exceptionnel, malheureusement, retenu auprès de sa femme malade, il n'a pu être parmi nous aujourd'hui, il m'a prié de l'excuser et de lire ses livres, tapés de sa main. De ceux qui furent mes passeurs, sur cette lidoire qui marquait la ligne de démarcation, seul sera là Pierre Beausoleil, lequel, avec la mère de sa femme Simone, me conduisit pour la première fois aux abords de la ferme de notre ami Rambaud. De l'autre côté du ruisseau, parfois grossi par les pluies, m'attendait M. de la Bardonie, auquel j'ai dû rassembler les premiers éléments du réseau que j'avais reçu mission de créer tout au long de la côte française de la Corse. C'est lui qui me fit connaître à Bordeaux Jean Fleuret et Marie-Ange Gaudin, auquel notre confrérie Notre-Dame fut redevable d'un de ses plus beaux fleurons. C'est également lui qui me conduisit chez le docteur Payou, auquel j'ai dû l'adhésion à Brest du lieutenant de vaisseau Philippon, l'un des rares officiers de notre marine nationale dont la vérité britannique, reconnu de façon éclatante
des mérites, et dont le général de Gaulle, devenu président de la République, tint à faire son chef d'état-major particulier. C'est chez M. de la Bardonie, dans son château de la Roque, qu'eurent lieu les premiers essais de mon poste émetteur. Passage de zone libre en zone occupée au point même où vous vous trouvez. Au remerciement que je vous prie exprimer à celui qui, selon sa propre expression, prépara le berceau de ce dont j'allais, avec la coopération de chacun, faire la confrérie Notre-Dame, je joins l'expression de ma respectueuse et profonde gratitude envers Madame de la Bardonie, dont le courage, le dévouement, la générosité furent à la table. Cette même gratitude et cette même admiration vont de ma part à tous ceux des nôtres qui payèrent leur combat contre l'envahisseur au prix de l'arrestation, de la torture, des interrogatoires, de la solitude glacée des prisons, de l'enfer, de la déportation et parfois du poteau d'exécution. Je faisais tout à l'heure allusion à mes passeurs. Hier, beau soleil porte aujourd'hui dans sa chair les séquelles d'un système contractionnaire que vous avez vous-même éprouvé en compagnie de mon frère Philippe, cher ami. N'en est pas revenu Édouard et Tourneau, dont sont morts après leur retour en France Jean Fleuret, Marie-Ange Gaudin, Lucien Borderie, pour ne citer que ceux-là, qui, avec tant de femmes et tant d'hommes unis dans un même sentiment fraternel, furent pour moi un constant exemple. Fin de citation. L'enseignement a jeté les mailles de son filet sur l'ensemble de la France. Il a compté plus de 500 membres. 65 ont été abattus ou fusillés, 280 ont été déportés. Au total, 228 membres de notre réseau, soit 45% de l'effectif, sont morts pour la France pendant la guerre. Comment ne pas évoquer ici la mémoire de Pierre Brosselette, qui fut un membre important de notre réseau, qui demeure un exemple dans sa vie comme dans sa mort. De la vie même du colonel Patsy, dit encore Rémy, comme celui de nos amis britanniques et américains, notre réseau a contribué au premier rang à remporter la bataille de l'Atlantique, à assurer le succès du premier raid offensif accompli sur nos rivages depuis la défaite, à déterminer le point de débarquement en Normandie, pour ne faire mention que des résultats les plus brillants. Tout cela fut le fruit d'un travail d'équipe et constitue notre fierté commune. Fin de citation. Dernière question posée à cette région d'Aquitaine. S'il n'y avait pas ce monument, ne serait-il pas difficile d'évoquer tant de combats, de souffrances, de sacrifices dans cette campagne douce et souriante qui nous entoure, l'un des domaines les plus heureux pour l'homme? De larges coteaux s'étalent entre d'amples vallées aux dessins fermes et nets. La France n'a nulle part d'aussi belles vallées, d'aussi brillantes dans l'éclat du soleil fidèle à notre rencontre et la variété des cultures. Tout un système, tout un pays à la hauteur. Mais cette région fut aussi terre de lutte et de combat à cause des hommes. En raison de leurs contrastes et de leurs contradictions, de leur croire et de leur passion. Déjà en 1453, Castillon, les Français terminaient victorieusement la guerre de 100 ans contre les Anglais. En 1940, la Bardonie et ses amis reprenaient la lutte, cette fois-ci aux côtés des Anglais, une fois encore, pour la libération du pays. À la douceur de vivre, inspirée par cette belle Aquitaine, à l'attente, à la résignation, au repos prudent, prêché et imposé par les autorités, les premiers résistants ont préféré le combat. ils se sont levés, assumant les dangers et les sacrifices pour la patrie et la liberté. Quelle conclusion en tirer? De tous ces événements, j'ai retiré beaucoup de scepticisme sur les hommes en général. Et aussi beaucoup d'optimisme sur l'homme en particulier par l'intelligence et la raison, par le cœur et par le courage. L'homme peut s'élever à la hauteur des situations les plus difficiles. Il peut les dominer. Il peut préparer, faire avancer, faire triompher les solutions nécessaires aux grandes causes humaines. Il peut contribuer à construire l'histoire. La résistance nous a appris pour rappeler la force que donne conjuguer le patriotisme et l'amour de la liberté. Une France renouvelée dans un monde nouveau, pacifique, libre et juste, était notre espérance. Elle le demeure. La meilleure façon de rester fidèle à son passé et de se tenir prêt pour les tâches du présent et de l'avenir. De 1940 à 1945, la résistance a sauvé l'honneur de la France et l'honneur de l'homme. Elle mérite que les Français s'en souviennent, car ils peuvent retrouver dans ses profondeurs, dans son essence, comme dans ses actes, les plus hautes valeurs, les valeurs éternelles, celles qui donnent un sens bénéfique à la vie comme à la mort.
De Bordeaux en bien résistant comme tout le monde le sait.
Bien mes camarades, je suis en effet très heureux et très ému d'être ici avec vous, ces authentiques résistants. Nous avons beaucoup souffert en ce temps, en 44, de ces dizaines de milliers, ou peut-être davantage, de résistants qui se sont abattus sur la France pour ne pas apprécier, donc que 40 ans plus tard, nous nous retrouvons ensemble. Cette région, j'y ai peu combattu. Simplement, ce n'est pas rien. Nous sommes à moins d'une heure du château de Chabon, là où un beau jour ensoleillé du mois d'août 43, croyant simplement changer de pseudonyme, passer de la canale à Chabon, en fait, sans le savoir, je venais de prendre une nouvelle identité définitive, mon nom d'aujourd'hui. Plus près encore, la Dordogne, où un jour de 41, si mon souvenir est exact, un soir, une nuit, et comme la Dordogne majestueuse, merveilleuse, et large, et lente à traverser en barque par une nuit de pleine lune. Et le rameur, je devais le découvrir beaucoup plus tard à Bordeaux, avec son large chapeau, sa houppelande. Le passeur, c'était Espadon, c'était Jean Fleury. Alors aujourd'hui, je n'ai rien à ajouter sur ce qui a été fait et remarquablement faite, avec amour. Je voudrais seulement dire que tous ceux qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle, je voudrais dire que nos amis ici présents, anglais, américains, que toi, Jules, Muratschel, et vous, Fourcault, de l'Ordre de la Libération et de nos réseaux actions, nous savons que nous avons un devoir à accomplir. C'est de rester identiques à ce que nous étions il y a 40 ans, les mêmes, aussi déterminés, aussi prompts, aussi rapides. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour que la France ressurgisse, la France notre mère, la France telle que nous l'aimons, en elle-même, mais aussi pour sa mission universelle, au service des êtres, et d'autant plus au service des êtres que les êtres sont plus démunis de par le monde, et pour la paix. Et pour la paix, mais naturellement, si nous sommes pacifiques, au plus haut point, la seule paix que nous visions, c'est la paix des hommes debout. Ce n'est pas la paix à genoux. Tout cela est très simple. Mais il n'est pas mauvais de temps à autre de le répéter. Alors, la barre de Nice, vieux camarade, le général de Gaulle m'a parlé plusieurs fois de vous. Peut-être vous a-t-il parlé de moi. C'est sans importance. L'important était qu'il y eut de Gaulle. Et subséquemment, vous et moi et les autres. Et beaucoup d'autres. Alors, pour être fidèle à l'action de ceux qui sont morts, soyons donc des vivants déterminés.
Représentant le préfet de région, délégué par monsieur le ministre des anciens combattants.
Monsieur le président de la LUCA, monsieur le premier ministre, messieurs les consuls, monsieur le député suppléant, messieurs les conseillers généraux, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, au nom du gouvernement, et je ne rappellerai pas ici, qui compte parmi ses membres un membre de l'Ordre de la Libération et de nombreux résistants authentiques, au nom du gouvernement, disais-je, et en celui plus particulièrement du secrétaire d'État chargé des anciens combattants, en celui aussi de M. le préfet Jean-Claude Zel, je me joins à vous pour participer dans le souvenir et dans la ferveur à l'inauguration du mémorial national dédié au réseau CMD-CACI. Que le président François et le président de la Bardonie y ont conçu et fait aboutir ce projet que nous inaugurons aujourd'hui reçoive l'hommage unanime de la reconnaissance collective. Mesdames, Messieurs, votre présence ici, aujourd'hui, revêt à l'évidence une triste signification. Elle témoigne d'abord de votre fidélité à la loi du souvenir. Souvenir de l'engagement total que vous aviez souscrit au service de la patrie, au service de la France. Souvenir des risques, des dangers et des drames de la clandestinité. Souvenir des faits d'armes, des parachutages, des combats victorieux, mais souvenir aussi des arrestations, des tortures, des déportations, des morts. Souvenir de la libération, souvenir enfin de la victoire. Votre présence ici, aujourd'hui, témoigne aussi de votre fidélité aux liens de solidarité qui ont été créés entre vous par tout ce que vous avez partagé, connu, vécu ensemble, les espérances comme les déceptions, les malheurs comme les bonheurs, les succès comme les revers. Votre présence ici, aujourd'hui, témoignant enfin de votre fidélité aux principes et aux valeurs pour lesquelles vous vous êtes battu. Le refus d'abord de toutes les fatalités, celle de l'arbitraire comme celle de l'oppression. Le rejet ensuite de tous les sectarismes, fanatismes, racistes, nazis et autres fascistes. La proclamation aussi que partout, que toujours, le droit prime la force. Et par-dessus tout, l'attachement viscéral à ces marques suprêmes de la civilisation et de la dignité humaine que sont la liberté et la tolérance. En vérité, que vous ayez été paysan ou citadin, ouvrier ou ingénieur, jeune ou vieux, chrétien ou athée, manuel ou intellectuel, ce sera votre fierté de n'avoir jamais cru, jamais admis que de 40 à 44, la France était un pays définitivement vaincu, écrasé, humilié, rayé de la carte du monde, mais au contraire, d'avoir toujours témoigné qu'elle était une nation où sourdait, à travers des ruines de toutes sortes, l'espérance, la foi en l'avenir, c'est-à-dire tout ce qui préparait et préfigurait la libération. Puissent en effet les générations actuelles et futures ne jamais oublier l'incomparable leçon de la résistance, cette leçon qui enseigne comment des Françaises et des Français, dominant l'accablement et la tristesse sous les plongées de la défaite, méprisant les invitations déshonorantes à la résignation, mais répondant au contraire, dans la spontanéité, puis dans l'organisation, à l'appel historique du général de Gaulle, s'accrochèrent de toute leur âme, de toute leur volonté, à leur idéal de patrie souveraine et libre. Engagèrent immédiatement la lutte contre l'occupant, en dépit de la disproportion écrasante des forces et des moyens, menèrent pendant 4 ans le combat à travers d'infinies souffrances, et participèrent finalement, d'une manière décisive et exemplaire, à la victoire finale. Mesdames, Messieurs, dans sa maison des morts, Dostoïevski raconte comment des forçats libérèrent un jour un grand aigle de Sibérie qui avait été capturé et qui, l'aile brisée, semblait attendre la mort dans la cour de la prison. Le soir, quand les tambours eurent battu l'appel, des forçats s'emparèrent de l'aigle, le soignèrent, le lancèrent du haut d'un glacis, et tandis que péniblement l'oiseau s'envolait vers la steppe, l'un d'entre eux s'écria « S'il doit mourir, il meurt libre ». Cet aigle blessé, c'était la France en 1944. Et les forçats qui lui redonnèrent la liberté, c'était vous, le combattant de la résistance, c'est votre mérite, c'est votre honneur. Puisse donc notre jeunesse, puisse donc les générations de demain venir s'inspirer au pied de ce mémorial de la grande leçon de la résistance, celle qui nous adjure à la cohésion, à l'union, à la solidarité, si nous voulons vraiment sauver les deux biens les plus précieux de notre patrie, la liberté et la tolérance.
Britanniques et Américains. physique militaire qui relèverait
une blamage qui lui semblera la bonne, après quoi je vous donne rendez-vous à la mairie des Salles de Castillon pour un vin d'honneur.
Thank you. encore un peu, mais c'est pas la peine, parce qu'après
on va venir partout.
Là, il va être pour 5 minutes encore. Alors.
Moi, je vais compter qu'en plus, c'est allé à moins 5. Maintenant, c'est dans les
années. Bon, hein?
Oui.
Je croyais que c'était une ville.
Non, mais on dit, j'ai eu chaud, là. Je sais pas toi, mais au moins, une ville, là, disons. Qu'est-ce qu'il a changé, je sais pas. Il est fait.
On va débrouiller quand même.
C'est la famille, beaucoup.